C'est du vrai ?
Ouais. Ça y est, c'est parti.
Troisième émission, nous recevons ce soir Patrick Tabar, peintre sculpteur qui vient nous parler de son œuvre. À mes côtés, une équipe diminuée en nombre mais renforcée en talent, en la présence d'Alice, sculpteur également, qui tentera de percer le mystère Tabar. Inutile de vous présenter Juliette, qui nous parlera de ciné, célèbre dessinateur satirique de Charlie, après ça.
We'll be right back.
song.
Qui s'appelle Cannonball et une bassiste néanmoins mythique qui s'appelait Kindle qui a officié dans les Pixies que tout le monde connaît. Allez, je passe la parole à Juliette qui va vous parler, je crois, Juliette, ce soir de ciné.
De ciné, oui. Vous avez reconnu effectivement aussi notre ami Bertrand qu'on n'oublie jamais. Et pour parler de ciné, eh ben en fait, tout simplement, il vient de sortir le 5e tome de ses mémoires. Je pense que j'espère pour lui qu'il y en aura encore beaucoup derrière. Donc, la série de ciné de ses mémoires, ça s'appelle « Ma vie, mon œuvre, mon cul ». C'est quand même un truc qui vaut quelque chose. Le premier, c'était « Attention, me voilà ». Attention, j'arrive, pardon. Bah, si je commence à trahir tout de suite les trucs, ça va pas. Le second, pour vous dire un peu comment c'est rigolo, c'est « 22, v'là l'écheleux ». Le troisième, « Youpi, la guerre est finie ».
Sponsorisé par Hitler Productions.
Voilà, derrière on peut imaginer tout de quoi il parle, mais on va en causer juste après. Le quatrième, c'était Corvée de chiottes. Donc là aussi,
on imagine le sujet. Pour un mec réformé, c'est pas mal.
Et dans le dernier, donc il s'appelle « Ma vie, mon œuvre, mon cul » et « Mes chats ». Il parle aussi de ses chats. Alors, tous ces bouquins, on peut les trouver pour la modique somme de 50 balles. C'est uniquement en kiosque, c'est dans les éditions Charlie Hebdo. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire encore de ciné ? Pas mal de trucs. Pour parler de ces bouquins-là, déjà, c'est tout écrit à la main. Donc évidemment, on n'y gagne pas en volume, mais on y gagne en volupté de lecture. Hein, on peut dire ça comme ça.
On peut dire qu'en plus d'avoir un coup de crayon assez magistral, c'est un mec qui est vachement doué aussi pour écrire, qui est très doué pour écrire.
Ben oui, puis qui était un chroniqueur donc dans Charlie, on y revient toutes les semaines,
ouais.
Et qui a le chic de s'en prendre à tous ceux qu'on déteste aussi, c'est-à-dire l'armée, les curés, les toréadors, les flics. Je sais pas si j'en oublie.
Tous les gentils, quoi.
Voilà, je crois que tu avais retenu des petites choses qu'il épinglait de temps en temps dans le journal avec plaisir.
Oui, dans sa rubrique qui s'appelle, si je ne m'abuse, Cinésem, sa zone.
Absolument.
C'est très dur à prononcer d'ailleurs. Oui, parce que il y a quelques temps déjà, il y a un an à peu près je crois, il y a eu une vague de suicides chez nos amis de la Maréchaussée. Non pas que je cautionne ni le suicide, ni nos amis de la Maréchaussée d'ailleurs. Et il avait eu l'excellent réflexe, on peut le dire, de dire « Messieurs, continuez, il en reste encore 200 000
». Et moi, j'apprécie particulièrement, en tant que végétarienne et farouche amie de la cause des animaux, le fait que chaque fois qu'un toréador se fait encorner, il se félicite aussi. Et en fait, bon, c'est très dur à traduire en radio, il faut dire ce qu'il y a, parce qu'il faut voir la gueule de ses dessins. Dans ses chroniques, il se dessine lui-même avec une gueule qui est toujours la même. D'ailleurs, il faut dire un truc par rapport à ciné, c'est que tous ces personnages se ressemblent, que ce soit des hommes, des femmes, des nourrissons ou des chats, ils ont tous des gros pifs et des drôles de têtes.
Et des nez rouges.
Et des nez rouges. Et quand ils... Parce qu'ils picolent aussi.
Amoureux de jazz.
Même les chats. Et quand ils... Comment dire ? Quand ils se réjouissent de bonnes nouvelles comme ça, comme la mort d'un flic ou d'un toréador, on le voit... Enfin, c'est des autoportraits où ils se dessinent pétant de joie, en train de fumer 12 000 clopes, 25 cigares, en buvant 45 000 verres. Quoi. Donc, un être très sain, qui commence à avoir un peu de notoriété sur le tard. Excuse-moi, je sens que tu veux dire quelque chose. Je sens que tu as l'aide derrière le micro.
Ouais,
mais
tu dis, il boit des verres. Pour un végétarien, c'est con, parce que c'est quand même de la vie.
Je voulais juste dire qu'il commence à avoir une certaine notoriété sur la fin et qu'on a pu le voir. Alors lui, le rebelle lanard total depuis toujours, on a pu le voir chez Pivot comme un petit papy comme ça qui avait l'air tout sage, tout bien habillé, tout timide. Et c'était vachement bizarre. Mais il l'avait dit dans sa chronique, je vais sûrement être vachement intimidé. Et puis bon, bah c'est pas grave. grave, on lui en veut pas du tout. Il était au milieu de plein de gens qui racontaient des partouzes incroyables. C'était un petit peu spécial comme émission, on peut le dire. Avant de passer la parole à Patrick Tabar et puis aux questions que vont lui poser Alice et Bertrand, je voulais encore dire un truc par rapport à ciné. Puisque dans ce dernier tome de ses œuvres, il parle pas mal de ses chats, il parle aussi du fait que, comment est venu le livre sur les chats que peut-être vous connaissez, avec des jeux de mots comme chat pline, bon, chat luthier, où on voit un chat effectivement qui fabrique des luttes, etc. etc.
Chatouille.
Donc chatouille, je ne connais pas comment on peut dessiner ça, mais on pourrait le souffler à ciné. Oups. Et donc, ça lui a été
soufflé par
Éléonore Fini, donc, qui est un peintre, qui est une peintre, je sais pas comment on dit, une peintresse qui adorait ciné, qui adorait les chats, et il avait pris l'habitude de lui envoyer, il le raconte là-dedans, des petits dessins de chats avec des petits trucs d'humour comme ça, et c'est devenu une grosse célébrité, quoi. Est-ce qu'on peut dire quelque chose d'autre sur ciné pour l'instant?
Non, bah écoute, pour l'instant non, on pourrait peut-être envoyer le...
Ben on va envoyer un truc tout à fait adapté, c'est notre ami Boris Vian, un vieux rebelle aussi, qui nous chante la Java des chaussettes à clous.
Frémutine, toujours à courte, elle donne à qui les porte une grâce virile et forte, et toujours de très bonne alloi. Dépouillée de tout équivoque, d'un noir d'encre sans rien qui choque, cuir de vache ou bien façon phoque, elle prenne force de loi. Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des chastes gendarmes. Voyez le plaisant vacarme, celle là tout le charme des chaussettes à clous. Gendarme combalusier, avez-vous ciré vos godasses?
Oui, brigadier.
Alors veillez à ne pas les dégâter dans quelques colombins. Depuis l'aube au crépuscule, ignorante du ridicule, elle porte à qui circule les conseils du simple bon sens. Pour régler les tristes querelles des voyous et de leurs donzelles, elle danse la tarentelle sur les pieds de tous les feignants. Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des brillants gendarmes, remède à toutes les larmes, seul à tout le charme des chaussettes à clous. Gendarme, aide-vous sa main. Combien de contredanses avez-vous exécuté ce matin?
113, brigadier.
Gendarme, ce n'est guère. Attention, on vous surveille. Ustensiles fort sociables, elles prennent un contact aimable avec l'œil ou avec l'orable du badaud qui ne sert à rien. Réformant la jeunesse oisive, elles font propagande active dans le ventre ou dans les gencives des crétins du quartier latin. Ce sont les chaussettes à clous, compagne chérie des humbles gendarmes, parures en même temps qu'armes, c'est là tout le charme des chaussettes à clous. Gendarme Otis Piffre, vous avez de la cervelle sur votre chaussure gauche.
Ouais, brigadier.
La prochaine fois, essuyez-vous aux cheveux du prévenu. Très discrète, c'est sans histoire, pendant les interrogatoires, qu'elles aident ceux du prétoire, de leur poids et de leur sagesse. Respectant toujours la cadence, elles brisent joyeuse danse, les tibias et la résistance, des malfrats vaincus qu'on confesse. Ce sont les chaussettes à clous, des juges si doux et les auxiliaires. Calmez toutes vos alarmes, vivons sous le charme des chaussettes à clous. Calmez toutes vos alarmes, vivons sous le charme des chaussettes à clous.
Non mais toujours été...
Je vous rappelle que nous recevons ce soir Patrick Tabar, personnalité aux multiples facettes. Ben justement, en fonction de ces multiples facettes, comment est-ce que tu aimerais qu'on te présente, Patrick? Parce que je crois savoir que tu officies dans plusieurs domaines.
Moi, j'aimerais bien qu'on me présente comme quelqu'un qui aime l'art.
D'accord, qui aime l'art en général.
Oui, parce que je crois que c'est une grande possession de l'être humain.
Un sacerdoce pour toi.
Comment ?
Un sacerdoce pour toi ?
Oui. Je crois que sans art, on ne vit pas.
D'accord, donc tu refuses toute étiquette finalement. Tu veux pas qu'on te catalogue comme quelqu'un de...
L'étiquette, c'est les gens qui la donnent. C'est pas moi qui dois la donner.
D'accord.
Mon art ne fait partie que mes mains, mais pas... Elle m'appartient pas. ça appartient aux gens. S'il n'y avait pas les gens, il n'y aurait pas d'art.
Ok.
C'est-à-dire que... C'est-à-dire que toi, quand tu peins ou tu dessines ou tu sculptes, enfin, a priori, on peut penser que pour toi, bon, c'est vital, apparemment.
Tout à fait.
Et mais tu, s'il n'y avait pas le regard des gens sur ce que tu fais, tu considérerais quand même que ça existe
comme
de l'art.
S'il
n'y
avait pas le regard des gens sur ce que je fais, je crois que mon art n'existerait pas. Je parle pas de moi, je parle de mon art. Quand on parle d'art, on doit parler. D'elle, pas de lui.
D'accord.
Ça veut dire que ce que tu fais, tu le fais pas. Question très 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 bête. Tu le fais pas pour toi, tu le fais pour les autres. Parce que tu dis je.
Un peu oui, un peu pour les autres aussi, parce que je pense que la peinture, la sculpture, la poésie, ça amène de la chaleur aux gens. Ça leur amène de la gaieté, ça leur amène des couleurs, ça leur amène moins de tristesse, moins d'égoïsme. Parce que si un artiste est égoïste, je vois pas pourquoi qu'il exposerait, je vois pas pourquoi qu'il donnerait son art. Moi j'offre mon art. Bon, c'est vrai qu'on en parlera peut-être après. Il y a la finance, il y a plein de choses, mais je pense que déjà... Pour peindre, il faut penser comme ça. C'est une grande pensée profonde.
L'art est dans la rue, l'art est à tout le monde.
Tout à fait.
L'art est libre.
Si on enchaîne l'art, bah, c'est comme si on enfermait un oiseau dans une cage.
D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ?
Oh, mon parcours ! Il a été laborieux. D'abord, j'aurais jamais dû faire de l'art déjà. Parce que je me suis découvert à 21 ans. Enfin, on m'a découvert parce que je suis autodidacte. Donc, j'ai pas fait les beaux-arts, j'ai pas appris à peindre. J'ai peint. C'est déjà une chose qui est différente. Et après, on m'a remarqué, on m'a dit que j'avais un certain talent. Ça, c'est les gens qui disent que j'ai un certain talent. Mais je crois que le talent, c'est toi qui dois l'avoir par rapport à ton œuvre. C'est-à-dire que quand tu regardes une toile, tu dis bon bah elle est finie, je l'aime. C'est la conclusion d'un amour parfait. Moi j'ai toujours considéré l'art comme quelque chose comme une femme. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Tu la trahis ou tu la trahis pas.
Un rapport
c'est quelque
passionnel.
Chose que tu donnes.
Ouais.
Comment?
Tu as un rapport passionnel finalement.
Bah c'est l'art, c'est de la passion. Sinon, c'est pas la peine de peindre. Si les pinceaux, c'est une chose, les doigts, c'est une chose, tout est une chose. La lumière est une chose, la palette, j'en ai pas de palette, moi. Je peins avec ma toile. Dire qu'elle est blanche, non, c'est faux. Elle est déjà là. Elle existe. Et elle va vivre et elle va mourir. Enfin, mourir par elle-même, pas par moi. Puisque j'aurais donné la vie.
Donc avant de donner la vie à cette toile, tu considères que la toile déjà en elle-même...
Est vivante.
Est vivante. D'accord.
Tout à fait. Sinon, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de peindre, sinon.
Je voulais juste te poser une question prosaïque, parce que tu parlais de cet âge de 21 ans. C'est un âge où... C'est là que des gens ont découvert ce que tu faisais et ont dit tiens c'est intéressant, tu devrais vraiment faire quelque chose, ou c'est là que tu as eu une espèce d'illumination, que tu t'es dit tiens c'est en peignant, ça t'est venu comment en fait de te dire tiens c'est ça mon truc?
Non, au départ j'ai commencé par la sculpture, je sculptais et puis un jour on m'a dit bah écoute tu devrais te lancer dans l'art, t'as une certaine passion et t'as un certain génie. Enfin, c'est ce qu'on a dit, c'est pas ce que j'ai dit. Et puis j'ai rencontré un copain qui était dans le milieu de la France, qui m'a donné 2 ou 3 heures de cours de sculpture. Et il a dit, bon bah, ce que tu fais c'est bon, tu peux y aller, t'as pas besoin.
Ah, c'est formidable ça.
Et puis bon, et malheureusement il est mort, paix à son âme. Mais je l'ai toujours dans mon cœur. Et... j'ai suivi sa voie. Et puis, bon, déjà, petit, j'aimais ça.
Enfin voilà, je me demande.
C'est vrai qu'à 7 ans, j'étais passionné par l'art. Bon, mes parents m'ont pas donné les beaux-arts et tout ça. Je regrette pas, je trouve que c'est même très bien. Parce que bon, j'ai appris autre chose. Et puis, ça m'a permis de développer mon art à ma façon, intérieurement. Après, bon, j'ai lu énormément, je me suis vachement intéressé à plein de peintres et tout ça, je les ai étudiés, je les ai lus, parce que dans la peinture, il y a une écriture, une grande écriture, une grande force d'écriture. Il y a un grand soleil, c'est comme dans la musique, comme dans la poésie, il y a un grand soleil. Et à ce moment-là, on peut découvrir les choses et on ouvre les portes. Parce que la peinture, la sculpture ou la poésie ou la musique, c'est un travail énorme. Il faut savoir trouver les clés pour ouvrir les portes. Et moi, je dirais que c'est les portes de l'amour. Sinon, comme je disais tout à l'heure, ça sert à rien.
Donc manifestement, le rôle des femmes pour toi dans ce que tu fais est primordial et même essentiel. C'est ton moteur.
S'il n'y avait pas la femme, il n'y aurait pas de vie.
D'accord.
Jusque là, on est d'accord.
Amis féministes, bonsoir. Tu as dit que tu avais démarré par la sculpture.
Oui.
Avant la peinture. C'est pas plus difficile.
J'ai démarré par la sculpture sans créativité, enfin avec une créativité dans mes cheminées. Mais bon, j'en ai fait peu. Et puis un jour, il y a un homme qui s'est présenté, qui m'a dit, tu devrais te lancer dans la peinture. Bon, c'est vrai que mon peintre préféré, c'est toujours été Dali. Parce que bon, Dali, c'était mon rêve. C'est carrément du surréalisme, c'est quelque chose de très très beau. C'est quelque chose qu'on peut pas percevoir ni tenir dans ses mains. C'est une grande vision. Après, je me suis intéressé à plein de peintres qui avaient la même folie, mais différentes. Parce que dans la peinture, il y a plein de choses à saisir. Il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de mots à dire. Parce que chaque peintre a sa façon de voir et de concevoir. C'est comme je disais tout à l'heure, un enfant n'est pas la même chose, quoi.
Ouais, ouais.
Chaque enfant ne ressemble pas à l'autre. Et c'est ça qui est intéressant dans l'art. C'est de procréer l'art. Chaque toile que je fais, c'est quelque chose qui m'appartient.
C'est presque mystique, la façon dont
c'est
on parle.
C'est carrément mystique.
Ouais, ouais, ouais. Mais là, tu viens de faire référence au mouvement surréaliste.
Oui.
Donc Dali, Magritte, tous ces gens-là,
oui,
on va pas les
énumérer,
on les connaît tous. Que ce soit les écrivains, Breton,
tout à fait.
Ok. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est au niveau inspiration, tu n'es pas sans savoir que les surréalistes ont utilisé une technique qui s'appelle le rêve.
Tout à fait.
Et toi, tu t'es nourri de tes rêves pour appréhender.
Moi, je crois que les gens, s'ils se nourrissent pas de leurs rêves, ils meurent.
Les Donc, artistes, tu veux dire, ou dans la vie quotidienne
il faut à tout prix... Si tu veux créer, il faut que tu te nourrisses de tes rêves. Sinon, tu perds toute réalité.
Mais je dirais que même à la limite, dans la vie de tous les jours, le rêve, il est essentiel, il est primordial.
Tout à fait.
Même dans la façon de d'ouvrir un livre ou de...
Tout à fait. Moi, je crois que le livre, c'est quelque chose de très important. Parce que déjà, lire un livre, c'est déjà rêver.
Avant, ouais, tout à fait.
Parce que t'as pas d'image dans un livre. Tu n'as que les phrases, et puis chaque phrase qui s'accouple te donne vraiment un sentiment. Et s'il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de vie. C'est l'amour.
Ouais.
Si les gens n'avaient pas le sentiment de découvrir les choses, ils n'auraient pas d'amour.
J'aimerais bien qu'on continue sur l'image, etc. On va d'abord écouter Leïla sur le morceau Brave, et on repart après, si tu veux bien, de la différence entre l'écriture et l'image.
Tout à fait. Thank you.
smile, life is so easy and so safe. The days seem very long, don't know how to keep it going on. Oh, I wish I had the strength to be strong.
Écoutez, Leïla, avant d'en revenir à Patrick Tabar, notre invité de ce soir, je voulais juste vous signaler que Leïla, pour ceux qui ne le savaient pas, donc était claviériste et choriste de Björk avant de faire cet album solo.
Ok, moi je voudrais profiter du fait que, bah, que Patrick soit là, on a abordé Dali assez sommairement quand même. Et tu nous disais que c'était vraiment ton influence, une de tes influences majeures en peinture. Concernant maintenant la vie de l'artiste, parce que c'était quand même un sacré bonhomme.
Tout à fait.
De par ses frasques, de par ses, sa personnalité un petit peu hors norme, je voudrais savoir ce que toi t'as pensé quand il s'est rallié au mouvement franquiste, en fait, parce que t'es pas sans savoir que. Alors, est-ce que tu penses que c'est par provocation? Est-ce que tu penses que. Parce qu'il y a quand même un.
Non,
un
moi je pense que c'est un petit peu par lâcheté. Parce que bon, il faut savoir que Dali a été issu d'un milieu bourgeois. Son père était notaire. Et puis, il fallait qu'il fasse son petit trou. Puis qu'il montre ce qu'il est. Enfin, ce qu'il était. Parce que c'est un grand bonhomme. C'est un. Je dirais qu'il est un peu. Non, je dirais pas à dire ça parce que Gala a accepté et puis.
C'est un schizophrène quand même.
Carrément, ouais.
Ouais.
Moi, j'ai lu les récits qu'on a écrits sur lui. C'est vrai que bon, mais il est carrément ce que il était un peu barge, quoi. Mais il avait un génie formidable.
Ah oui, je.
Parce qu'il savait vivre dans le rêve. Et c'est ça qui était important.
Ah oui, il se nourrissait d'ailleurs que de ses rêves.
Et oui, carrément. Carrément. Et en plus, il a. C'était un mec assez pompeur aussi, parce qu'il a pompé pas mal de gens quand même. Parce que toutes ses toiles, si tu regardes dans ses toiles et tout, il s'est inspiré quand même de pas mal de gens, il a pompé pas mal de trucs. Disons qu'ils se sont copiés ensemble à l'époque, ils se copiaient ensemble parce qu'il y avait un mouvement dada, donc il fallait vraiment que ça évolue. Et puis bon, il en a profité. Donc je dirais que il a gagné de l'argent et il a eu raison.
Bon, ça c'est un peu ouais, c'est un truc qu'on discute.
Au détriment d'un sentiment comme d'autres peintres que je pourrais parler après, mais. Qui eux, vraiment, pensaient peinture.
Alors,
oui, je t'en prie, Julien.
Non, ce que je voulais dire, c'est qu'évidemment, comme toujours, il y a ce problème du micro, que hors micro, il y a une discussion passionnante pendant qu'on écoutait Leïla, où tous les deux, que ce soit Bertrand et Patrick, en tant que fan de Dali, vous échangez vos impressions sur des tableaux. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu là-dessus? Quel tableau? Pourquoi?
Moi, le dernier tableau que j'ai trouvé formidable de Dali, comme je disais. Tout à l'heure, c'est la clé, c'est la clé de sol, c'est la dernière toile qu'il a fait quand Gala est morte, et puis après qu'il a foutu le feu à son château, et puis c'est vrai qu'il avait fait le musée Figueras, c'est un musée magnifique, c'est une œuvre, une grande, très grand, c'est même très beau, mais je crois que ça veut dire beaucoup de choses, sa clé, ça veut dire qu'il a fermé la porte de l'art, de son art. Il en avait marre, il est parti, il aimait plus, il avait perdu sa femme, parce que je pense que s'il n'avait pas eu Gala, il n'aurait jamais peint comme ça. Il n'aurait jamais été aussi fort. S'il n'avait pas eu sa sœur non plus, il n'aurait jamais été aussi loin. C'est une vie qu'il a comblée, qui s'est comblée lui-même, parce que c'est un grand égoïste. Dali, c'était quelqu'un de très égoïste. Mais bon... tous les peintres ne sont pas comme ça.
Voilà, j'allais poser cette question, je me permets, en tant qu'à moitié profane, parce que c'est vrai que c'est pas mon domaine, un truc où je connais vraiment beaucoup. Est-ce que pour être un artiste comme ça, à fond, il faut être égoïste ou pas? Ou pas du tout, c'est juste...
Moi, je crois que c'est pas une forme d'égoïsme. Parce que l'égoïsme, dans l'art, ça n'existe pas. Sinon, tu montrerais pas tes toiles. C'est quelque chose que tu conserverais personnellement, et puis on n'en parle plus, quoi. Je crois que l'artiste a toujours besoin de montrer ses toiles pour justement faire découvrir la beauté, la lumière des choses.
Mmh.
Et la poésie qui peut donner dans une vie qui est plus ou moins interne. Il y a des choses belles, tout le monde vit des choses belles, tout le monde vit des choses moches, plus ou moins intéressantes. Mais l'art, ça donne quand même la possibilité d'avoir un petit rayon de soleil quelque part.
Ouais, mais alors si je puis me permettre, enfin pour en revenir à toi par amitié comme ça aussi, c'est que il y a deux manières, c'est-à-dire que toi, de faire partager ces choses. Hein. Toi, tu donnais l'impression tout à l'heure, on disait d'une manière presque mystique, très belle, très apportée, de l'amour, du soleil, de la beauté dans la vie des gens, d'une manière de partage. Et aussi, par rapport à ce qu'on disait de Dali, et j'en sais rien, je connais presque pas en tout cas par rapport à toi, ça pourrait être aussi l'art, et c'est le cas de certains des gens, être égocentrique et nombriliste, c'est-à-dire que tu montres tes choses pour dire, voilà, c'est moi, aimez-moi, c'est moi, quoi, tu vois.
Non, mais... Dans le système que je voulais parler de Dali, c'est que lui, il a fait l'argent avec, il a fait énormément d'argent. Il a signé des feuilles blanches pour faire des lithographies qui sont vendues à l'heure actuelle. Et ça, c'est prouvé. C'est pas exclu. Mais de toute façon, dans le milieu de l'art, il y a toujours quelque chose où il y a un blanchissement de l'argent.
Ouais.
C'est la troisième banque de France, si on peut en parler. Mm. C'est carrément, tu passes ou tu passes pas. Il faut être honnête dans les choses quand on dit on peint ou on vend.
Ouais.
Entre vendre et peindre, il y a une différence. Parce que quand tu vends, tu gagnes de l'argent. Quand tu peins, t'en gagnes pas.
Ouais. D'ailleurs, il y a un anagramme subtil de Breton qui faisait partie du mouvement surréaliste qu'il avait prénommé Avida Dollar, justement. Il l'avait prénommé Avida Dollar. Il avait fait un anagramme assez subtil, je trouve. Et ça rejoint bien le côté provocateur du personnage aussi.
Parce qu'il a été
très novateur, je trouve aussi.
C'est un des plus grands provocateurs qui a existé dans l'art dada. Hein.
Amitorfiste, bonsoir.
Tu l'as vu en chaise roulante sur le trans. Tu l'as vu partout.
Oui.
C'est lui qui a construit la première exposition avec des escargots. Enfin bref, il a vraiment été à fond la caisse, quoi.
Il a utilisé les médias, c'est un des tout premiers à s'être servi des médias de façon très subtile. À chaque intervention, que ce soit radiophonique ou télévisuelle, il faisait un show et il s'est servi de ça aussi pour sa notoriété, pour grandir. Il avait, à mon avis, il avait pas besoin de ça parce que son talent, se suffisait à lui-même. Mais moi, je trouve qu'il a une. C'est un type moderne, en fait, avant l'heure.
Et la publicité aussi.
Ouais. Et je voudrais poser juste une petite question. Alors là, bon, puisqu'on est entre nous, tranquillement, en direct dans le bar de la Pelpaille et puis en différé dans le monde entier, je me souviens d'un truc qui m'avait beaucoup plu. Je sais pas si c'est, je l'ai entendu moi sur un disque. Qu'est-ce que c'était que ce truc où il était en train de raconter sa jouissance et sa jubilation en pensant à des coureurs cyclistes qui s'échinaient sous le soleil et qui en bavaient dans l'école, cependant que lui, il était bien au frais au bord de sa piscine ou je ne sais trop quoi, en train de boire un bon petit verre. Ça vous dit rien, ça, tous les deux, qui avaient l'air de bien connaître Dali?
Non, mais ce qui m'a vraiment impressionné sur lui, c'est quand il a dit que le centre de la Terre...
La gare de Perpignan,
voilà.
Ah bah, j'y suis allé, c'est pas beau, hein.
Tu parlais de poésie tout à l'heure,
c'est une vision énorme.
Ferroviaire du monde.
Ouais, j'ai trouvé ça...
J'ai lu des choses beaucoup plus graves
qu'il avait sodomisé les gars-là, enfin bref, dans une église, enfin bref, il y a plein de choses, j'ai lu plein de trucs comme ça.
Attention, Dali était impuissant.
Exact.
On est d'accord. Et son génie, peut-être, à mon avis, ben, je sais pas, je suis pas Freud, mais je me dis qu'un type avec un imaginaire aussi développé...
Tu vois
ce que je veux dire.
Si tu veux dire que tous les grands artistes sont impuissants.
Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que ce type avait un imaginaire qui était, à mon avis, qui était hors norme, qui était beaucoup plus développé que les autres. Et le fait de sexuellement être bloqué, il a peut-être transcendé son envie, sa libido complètement amorphe par un imaginaire qui s'est décuplé.
Tout à fait.
Et je sais pas.
Tout à fait. Mais tu sais, c'est pas le seul.
À être impuissant, non.
Non.
Marco, d'ailleurs, il baisse la tête tout à l'heure quand on parle de ça.
Non, c'est pas le seul. Au niveau de la peinture, on pense comme ça, mais moi, je pense que le peintre devant sa toile, bon, impuissant ou pas impuissant, je m'en fous complètement. Gala ou pas gala, je m'en fous complètement.
Gala.
Le trek, c'est pareil. On peut en parler aussi. On peut parler de Van Gogh, on peut parler de Monet, on peut parler de Manet, on peut parler de... impressionniste super Modigliani, par exemple.
Modigliani,
c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, parce que bon, bah, c'est vraiment le peintre Modi qui est à 40 ans, lui il est mort, mais moi je suis encore vivant, heureusement. Mais je me considère pas comme ça. Je crois que chaque peintre a sa peinture et chaque peintre a sa passion et sa philosophie.
Bon, maintenant on va écouter un petit peu de philosophie aussi à travers Radio Birdman. Et je voulais quand même, avant d'écouter Radio Birdman, vous signaler que Jean-Marc, notre ami animateur qui n'a pas encore beaucoup parlé, a quand même placé quelque chose d'excellent. Comme lui aussi, il jubile dans l'école. Radio Birdman. On va se recentrer sur vos questions que vous aviez toutes bien préparées. Et sans filet. Cependant que Pierre, notre ami qui nous met toutes les belles images en ligne, rentre dans l'Apple Pie, on écoutait Radio Birdman. Et notre invité, c'est toujours pour notre plus grand plaisir, Patrick Tabar, peintre, sculpteur, poète et amoureux de l'art.
Et surtout célèbre, on a un disparu il y a fort peu. On n'a pas fait non plus une émission que sur Dali. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur Patrick. J'ai lu que tu avais cité également comme une de tes influences majeures, tu citais Autoir.
Tout à fait.
Alors, ce que j'aimerais savoir, dans Autoir, ce qui te plaît le plus, c'est quoi? C'est l'aspect technique ou les thèmes qu'il a abordés, lui?
Moi, je pense que c'est les thèmes qui m'ont... Je pense pas, j'en suis même certain, c'est les thèmes qu'il a abordés.
il a osé quelque chose que personne n'avait osé, c'est dans la peinture faire une bande dessinée plus ou moins. Et il a fait l'approche d'une réalité. Parce que l'art, c'est une réalité, c'est des instants que tu vis. Il a montré le monde moderne, il a dénoncé des choses par rapport à sa peinture, parce qu'une peinture, ça dénonce les choses aussi. C'est pas fait que pour faire plaisir aux yeux. Bon, c'est vrai qu'il y a des peintres du dimanche qui font plaisir aux yeux, mais un vrai peintre, normalement, doit donner quelque chose de ses tripes. Lui, il a au moins donné ses tripes, il a osé, il a réussi. Daniel, c'est quelqu'un de très très bien. Je l'estime énormément. D'abord, j'ai du hauteur chez moi. Mais c'est pas ma peinture, mais c'est quelqu'un que j'estime énormément.
Et d'autant plus que c'est quand même un peintre qui a imagé sa génération. Il est je trouve qu'il est très en rapport avec son époque aussi.
Tout à
un peu
fait.
Comme Fernand Léger a pu immortaliser l'industrialisation à son époque au début du siècle. C'est quelqu'un qui.
C'est un peu comme Pablo qui a eu ses époques et puis qui a immortalisé son époque.
Alors pour les néophytes, il s'agit de Pablo Picasso, bien évidemment.
Ah oui, mais évidemment.
Non,
oui.
Pas de Pablo Neruda.
Bah non.
Non, mais en tant que fan de poésie, tu aurais pu aussi nous parler de Pablo Neruda.
Tout à fait. Tout à fait, excuse-moi.
Mais je t'en prie, bien au contraire.
En tout cas, oui, bah, je me permets de revenir sur ce que tu as dit, parce que je trouve ça intéressant, puisque tout à l'heure, on était parti sur donner du plaisir aux gens, ce qui est très bien. Moi, c'est une dimension qui me tient à cœur, effectivement, pas forcément une dénonciation, mais en tout cas une vision du monde, donc tu en as parlé par rapport à Haute-Soire. Toi, quand tu fais quelque chose, c'est aussi une vision du monde que tu veux donner?
Ah oui. Oui, parce que bon, j'ai des thèmes. Hein. Je prends les thèmes et je travaille toujours en série. Donc j'ai un thème que je vais à fond. Je fais toujours par une 3 mètres carrés, un 120 F. Je reprends un thème, je finis par un 120 F. Et je suis beaucoup plus basé sur la nature. J'ai eu une période où franchement j'ai travaillé vraiment. Je pourrais dire que c'est mal, mais c'était très dur. Avoir ces toiles-là, maintenant je les revois, je ne les renie pas parce que je les aime, mais c'était une période très sombre, très dure. Maintenant, moi j'ai une période très claire, très... C'est dur aussi parce que il faut savoir respecter un arbre, il faut savoir le regarder, il faut savoir regarder la nature, il faut savoir regarder une fleur, il faut savoir... Il y a plein de choses, je suis plus dans ce milieu-là en ce moment, je travaille plus sur la nature. Pourquoi ?
Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est en fonction de ton état d'esprit, c'est une évolution artistique ou une évolution personnelle ? Enfin, tu vas me dire, c'est lié.
Non, je crois que c'est ça se passe tout seul, parce que quand tu crées une série ou quand tu crées des toiles, tu penses pas que tu vas le faire. T'as une pensée, mais après, tout vient. Et c'est là que t'es heureux. C'est quand t'as fini.
Ouais, certainement.
T'aboutis à quelque chose de... Bon, ben, tu sais que ça va mourir, parce qu'il va falloir que tu t'arrêtes, parce que sinon tu vas pas pouvoir progresser. Donc tu vas recommencer une autre série, une autre palette, plein de choses comme ça. Et puis, tu vas recréer une autre série, tu vas être heureux, puis ainsi de suite. Moi, je crois que la peinture, c'est un bonheur.
Bah, t'écouter visiblement, ouais.
Ouais, c'est vrai que t'as une très belle façon d'en parler, je trouve. En tout cas, ça donne envie de.
Ouais, c'est magnifique.
Ah, une question dans le public.
Intervention.
Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, Christian. Oh, je taille poids.
Ça marche, là ?
Oui, oui.
Oh, je taille poids.
Bah, je t'en prie. Donc, une intervention dans le public. Ouais. Tac, tac, tac.
Non, je t'écoutais, Patrick, parce que bon, c'est un bon pote. Patrick, ça fait 30 ou une trentaine d'années qu'on se connaît. Moi, une quarantaine d'années. Ouais, attends, tu vas pas nous vieillir non plus. Et là, tu parlais au niveau de la nature. Et moi, je pense qu'à un moment donné, tu parlais beaucoup plus au niveau des sentiments. La preuve en est, c'est que je me souviens d'un tableau que j'avais failli acheter d'ailleurs, que j'avais pris dans la bagnole de l'époque. Je me souviens plus ce que c'était. Ça devait être une Renault 4 à injection de vin de fronton.
Le tableau ou la voiture?
Non, j'ai pas acheté la Renault 4. La Renault 4, je l'avais acheté à l'EDF. Et puis après, j'ai acheté le tableau à Patrick.
Et puis raconte-nous, parle-nous de tes vacances en Ardèche.
Non, je vais parler simplement du sentiment. Et ce tableau-là me plaisait énormément. Et je savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je l'ai installé chez moi. Et au fur et à mesure que je regardais, ça me pressait de plus en plus. pense.
C'est normal.
Et après, attends, laisse-moi finir. Et après, je lui dis, écoute, Patrick, dans ce machin-là, non, ça me plaît pas du tout. Je préfère te le rendre. Et en fin de compte, ça s'appelait l'étouffement. Donc c'était plus là, à cette époque-là, Patrick était plus de, au niveau de, enfin plus il y est toujours, mais c'était plus au niveau de, du sentiment de l'individu. Voilà.
Il n'y avait pas un lien avec ce que tu vivais aussi personnellement?
Peut-être, mais
Patrick aussi, il travaillait en chaudronnerie, il avait fait un
étouffement. Ouais. Bon, à cette époque-là, faut bien avouer qu'il parlait à l'envers.
Patrick a un commentaire, une réponse. Merci, on passe. Non, je plaisante.
Non, moi, je pense que parler à l'envers, c'est facile de le dire. Penser, c'est difficile. Parce que bon, je crois que chaque peintre, il a ses réactions par rapport à sa vie commune. Parce que bon, on rencontre des gens, on rencontre des difficultés, on rencontre du bonheur, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est peut-être aussi ce qui fait la palette et ce qui fait aussi la peinture. Parce que j'écris, je peins, je sculpte. Ma sculpture, on a écrit aussi que ma sculpture était différente de ma peinture. Des critiques d'art ont écrit ça d'ailleurs. Moi, je pense que c'était la même chose. Et je pense que c'est toujours la même chose. Entre mon écriture, ma sculpture et ma peinture, je veux pas les séparer. Parce que c'est des éléments qui font partie de ma vie. C'est comme si qu'on me séparait plein de choses, quoi. Donc non, je vois pas le problème de ce côté-là de dire que le peintre ou le sculpteur ou quelqu'un qui a écrit, s'il a pas la pensée ou il a pas la force de le faire, bah faut pas qu'il le fasse. C'est un truc naturel. C'est naturel.
Non, mais au niveau de tes sculptures, c'est quand même plus basé sur la femme par rapport à tes peintures, quand même.
Je dirais que oui, parce que bon, les sculptures, c'est beaucoup plus caressant. Disons que dans une sculpture, t'as des courbes, t'as des gestes, Moi, quand je donne des cours de sculpture, par exemple, je demande toujours à fermer les yeux et caresser, parce que une sculpture, ça se caresse par les yeux. Je tolère pas les gens qui caressent mes sculptures, qui touchent mes sculptures. Par contre, une personne qui regarde une sculpture, elle a la caresse dans les mains. Elle a une sensibilité, elle a une jouissance qu'elle ne doit pas me voler. Et ça, tu le sais, Jean-Marc.
Non, mais excellente transition pour parler de ton rapport avec la matière, finalement.
Bah, la matière de la peinture et la matière de la sculpture, c'est complètement différent. Tu travailles en peinture, en 3D, en triangle, n'importe quoi. Je sais pas faire des cours de peinture.
On m'a l'air que t'as quand même plus d'émotion à faire des sculptures qu'à faire de la peinture.
J'ai la même émotion. J'ai la même émotion à écrire. J'ai la même émotion à sculpter et j'ai la même émotion à peindre.
Mais le toucher est différent quand même quand dès que tu touches.
Mais non, mais ce que tu comprends pas, c'est que dans la 3D, c'est une autre vision. Tu peux pas sculpter comme tu peux peindre. Et tu peux pas écrire comme tu peux sculpter.
C'est-à-dire, t'as le même plaisir intellectuel et tu traduis la même vision. Moi, je pense que dans le toucher, quand même.
C'est sensuel. Mm-hmm. Moi, je pense que l'écriture est sensuelle, la peinture est sensuelle et la sculpture est sensuelle. Je pense que l'amour est sensuel.
De toute façon, on a l'impression que quand tu parles de sculpture, ça te donne une légère érection plus que quand.
Tu sais, Dali, j'en parlais tout à l'heure.
Plus que quand tu fais de la peinture ou de l'écriture.
J'en parlais tout à l'heure, Dali. Je crois que, de toute façon, c'est une jouissance de faire tout ça. Si t'as pas la jouissance de peindre, ou t'as pas la jouissance de sculpter, ou t'as pas la jouissance d'écrire, bah je crois que c'est pas la peine de caresser une femme. C'est la même chose.
C'est orgasmique finalement.
Ah bah je crois que tout ce qui est vie est orgasmique.
Donc chaque chose que tu fasses,
c'est scientifiquement, biologiquement, chimique.
Merci Marco.
Ça devient beaucoup trop intellectuel.
Non, mais ce qui serait bien, c'est de justement qu'on reste un petit peu sur la sculpture, si tu veux bien, dans la mesure où on a quand même pas mal parlé de peinture.
Pas de problème.
Et on a parlé tout à l'heure en aparté de Camille Claudel. Et tu as dit quelque chose à propos de Camille Claudel d'assez touchant finalement.
Moi, je pense que Rodin n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu Camille. D'abord, les portes de l'enfer n'auraient pas existé parce que c'est elle qui les a finies. Les bourgeois de Calais, ils n'auraient pas existé. Parce que c'est elle qui les a fait. Et je pense que elle a subi. C'est dommage parce qu'à l'époque où elle est sortie, c'était une mauvaise époque. Maintenant, je pense que ce serait quelqu'un de très très grand, très très fort, jusqu'à dire que ce serait presque un Henri Moore. Parce qu'Henri Moore, c'est quand même un des plus grands sculpteurs qui existe au monde, qui est mort, qui est décédé d'ailleurs. Mais enfin, bref, bon, je ne parle pas de César, César c'est autre chose. Enfin, il y avait plein de sculpteurs que je connais, enfin que j'ai étudié. Mais je crois que si elle n'avait pas existé, Rodin n'aurait pas vécu.
On reprend tous les deux notre respiration, c'est magnifique. Non, en fait, je voulais poser une question de Béotienne, une fois de plus. Pour tous les gens comme moi qui connaissent pas forcément bien ni Rodin ni Camille Claudel, est-ce qu'on peut dire du coup que le film de Nuitaine est tout à fait fidèle à la réalité ou proche ou...
Moi, je dirais que je l'ai lu, j'ai vu le film. C'est pas trop loin. Enfin, c'est pas du tout pareil parce que quand tu lis un, comme je disais tout à l'heure, entre lire et puis voir, et les images sont pas les mêmes, le rêve est pas le même. Mais ce qui est important de signaler là-dessus, c'est que Rodin était amoureux de Camille, c'était quand même sa maîtresse. Et puis bon, il avait quand même, il a eu des problèmes parce qu'il avait une femme aussi. Et puis, je crois que c'était un amour. Profond, un petit peu comme on dirait Dali et puis Gala. C'est ça se ressemble et on pourrait dire aussi comme pas mal de peintres. Comme,
C'est qui la fiancée au tour?
Comment?
Pardon Jean-Marc, nous avons mal entendu votre question.
C'est qui la fiancée au tour?
Eh ben écoute, c'est pas sa fiancée, c'est sa femme. La femme à hauteur, elle peint aussi d'ailleurs. Et je pense qu'elle a brisé un peu sa carrière pour sauver Daniel.
Donc même sorti du 19e siècle, on n'est pas encore sorti de toutes ces histoires d'amour romantique et parfois suicidaire pour les femmes. Ne souhaitons pas tout ça à Madame Hautoir. On écoute Mano Solo, qui n'est pas bien gay non plus, puisque ça s'appelle C'est en vain.
C'est en vain que je mords un sein, que j'embrasse une épaule, que ma peau se frotte et frôle, que je sais que c'est en vain, que mille fois je replonge, sans jamais me mouiller, sans jamais me noyer. Et je sais que c'est en vain que je dévore la route pour chaque soir étaler mes croûtes. Mais tu n'es pas dans la salle, c'est sur une autre scène que tu déballes tes oripeaux et ton pipeau. Je sais que c'est en vain, y a plus que des villes sans fleuves, pays sans femmes et sans chiens, y a plus que des ports sans voile et des métros sans bouche. J'ai oublié ton numéro, mais pas celui qu'on faisait tous les deux, qu'on faisait tous les deux. J'aurais beau me chercher une voie sans traverse, un chemin sans l'enfer, j'aurais beau courir plus vite que mon corps et trouver une mort sans cimetière, j'aurais beau chercher des journées sans remords et des boules sans pièces, j'aurais beau lutter sans force et abandonner avec violence, mais je sais que c'est en vain. Depuis toi
encore une belle histoire d'amour désespéré, comme les chante si bien Mano Solo, un artiste que personnellement j'adore. J'espère que c'est partagé par les auditeurs de Radio Apple Pie. C'est partagé en tout cas par notre ami Loïc, qui, je vous signale, est toujours à la technique ce soir. On revient à notre invité Patrick Tabar, on revient à l'art, à la poésie, à la sculpture. Et peut-être que Bertrand a une question à poser.
Oui, je voudrais qu'on revienne sur Camille Claudel, parce qu'une fois de plus, tu dissocies pas sa vie et son œuvre. Si on veut être un petit peu plus précis dans son œuvre, qu'est-ce qui t'a vraiment... parce que la façon dont t'en parles, c'est comme la façon dont tu parles des femmes. Tu en parles avec des yeux qui pétillent, les auditeurs peuvent pas le voir, mais t'as des yeux quand tu parles de Camille Claudel, c'est absolument effarant. Et donc dans son travail, qu'est-ce qui t'a... C'est court, qu'est-ce qui t'a...
Ça fait déjà 5 bières qu'il boit quand même. Hein.
Tu crois que c'est pour ça, Marco? Il y a autre chose,
Non, je pense pas.
Il y a un peu de magie, un peu de...
Non, c'est vrai que elle m'a vraiment passionné, parce que elle a créé des courbes que Rodin avait vues, mais n'avait pas la finesse. C'est-à-dire que elle avait les mains de la caresse, et puis savoir regarder quelqu'un, déplacer un geste, déplacer un mouvement pour donner la beauté des choses, je crois que elle lui a appris. Parce que bon, Rodin était assez brut. Bon, c'est un super sculpteur, évidemment, je l'adore. Mais elle lui a appris à diminuer sa dureté pour y amener un peu plus de finesse. Et puis, et quand tu regardes les œuvres de Camille, l'ange mûr, plein de trucs comme ça, tu peux tomber qu'amoureux. C'est une femme que tu peux tomber qu'amoureux. Alors qu'elle avait quand même la force d'un homme. Parce que c'est pas évident de taper sur un marbre. C'est pas évident de travailler sur un gaillac. C'est pas évident de travailler sur un ébène. C'est pas évident de dire que cette pièce-là, elle va te donner quelque chose. Parce que quand tu travailles un ébène, par exemple, il est devant ton nez. Il est devant ton nez. C'est un ébène. D'accord. Mais attends, il a son caractère. Et chaque pièce a son caractère. Un marbre, c'est un marbre. Mais il a son caractère. Une pierre, c'est une pierre. Elle chante. Elle a son caractère. La pierre chante pas pareil que le marbre. L'ébène chante pas pareil que le gaillac. Le gaillac, par exemple. Le gaillac, c'est un bois précieux, c'est un bois de fer. On appelle ça le bois de fer, mais c'est le gaillac. Ça se travaille pas pareil. Un onyx, tu prends un onyx noir, un onyx blanc ou un onyx vert, ça se travaille pas de la même façon non plus. Ça chante pas de la même façon. Et tu peux pas y donner la même forme. Parce qu'il y a sa couleur, il y a sa vie. Sa vie, elle t'appartient dans les mains. Sinon, tu la casses. Et une fois qu'elle est cassée, elle est morte. Et c'est ça qui est la différence entre la peinture et la sculpture. C'est que quand tu sculptes, t'as pas le droit à l'erreur. Parce que tu peux pas en revenir dessus.
Là, t'es nerveux.
Non. Mais tu me poses une question, je te réponds.
Mais donc, il faut que tu domptes ta matière avant de la travailler, finalement. T'as...
Non, c'est pas ça, c'est la comprendre. On ne dompte pas une sculpture, on ne dompte pas une toile et on ne dompte pas une écriture. On est simplement, on comprend simplement. Il faut l'analyser, être d'accord avec elle. C'est un ensemble, c'est comme un couple. C'est exactement un couple.
C'est-à-dire que déjà la pièce et la matière en elle-même te donnent son idée de ce que tu peux
dans
faire
la matière,
avec,
ou... C'est dans la matière que tu vas découvrir les choses. Uh-huh. Comme quand on en revient à Camille Claudel puis à Rodin. Rodin disait toujours, c'est à l'intérieur des choses que se trouve la sculpture. Cherche pas à comprendre, elle est dedans. C'est elle qui va sortir. C'est pas à toi de dire, je vais la sortir. C'est elle qui va sortir dans tes mains.
Donc tu te laisses guider.
T'es obligé de te laisser guider, sinon tu vas avoir une frustration et puis elle va casser. Par contre, si tu l'aimes vraiment et si tu sais ce qu'il y a dedans, eh ben, elle va sortir, elle va s'épanouir. C'est comme une fleur. C'est une vie.
Magnifique, ça nous laisse quoi, non?
c'est très difficile d'enchaîner après ça. Donc il y a une part d'inconnu, qui est une part de mystère, qui est quand tu
mystère, c'est simplement la création.
Mais quand tu commences, quand tu as ton
matière bloc
devant toi, ouais.
Je l'analyse avant.
Qu'est-ce que tu vas faire?
J'ai une idée. Mais après, elle se transforme. C'est elle qui va me gouverner.
Donc c'est la matière qui te guide finalement.
C'est un échange.
C'est un dialogue.
C'est, ouais. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand tu fais l'amour avec quelqu'un, tu Tu peux pas guider quelqu'un dans l'amour. Tu peux simplement vivre l'amour. Sinon, tu fais que l'amour.
J'ai vu des blocs chez lui qui restent des années où il fait rien dessus. Il retombe dans tous les sens, puis après...
Voilà.
Parce que c'était pas encore le bon moment.
Non. Il y a un moment pour faire les choses, il y a un moment pour faire autre chose. Il faut...
Il y a un onyx,
c'est pas une question de travailler...
Je crois qu'il va foutre à la poubelle parce qu'il va jamais taper dedans.
C'est pas une routine, si tu veux. C'est pas... Si tu commences à faire une routine de l'art, bah tu fais une routine de ta vie. Et tu fais une routine aussi de ton couple. Tu fais une routine de plein de choses. Tu fais une routine de ta vie, tes impôts, tes machins, tes trucs chouettes. Si t'es pas créatif, et bah c'est... Je sais pas.
Et dans la question du quotidien, parce que justement, toi, si tu... Comment dire? Tu crées en permanence, en fait, t'as tout le temps des idées. Je veux dire par là, puisque t'es dans différentes facettes de l'art, comme on disait tout à l'heure. Bon, c'est un peu un cliché, mais si t'as une pièce chez toi dont tu attends d'en faire quelque chose, est-ce que pendant ce temps-là, tu peins, tu écris?
Oui, je peins.
T'es tout le temps en train d'avoir des idées.
Si je peins, je peins. Mm-hmm. Si je peins pas, j'écris.
Ouais, voilà.
C'est vachement intéressant parce que.
Acheter des poireaux au marché de Gonfreville aussi.
Ouais, à la rigueur, oui. Faire le marché, c'est pas, c'est intéressant. Tu rencontres des gens, tu vois des gens, tu te fais des images.
Vive le poireau libre.
Plein de trucs, quoi. Tu communiques. Moi, je crois que l'art, c'est pour communiquer. Avant tout, c'est vrai, tu le regardes, c'est beau, ça te plaît ou ça te plaît pas, mais enfin bref, tu communiques avec ton art.
Non, mais tu dis ça, Patrick, je me permets de dire ça parce que je pense que c'est pas si courant. Je connais un peu des gens dans le milieu de l'art en général, que ça soit toi dans pas mal de domaines. Il y a plein de gens qui ont des longs moments, sans inspiration ou sans créer. On dirait que toi, de la manière non seulement dont tu vis, mais en plus dont tu crées, c'est tout le temps, quoi. T'es en permanence.
Bah oui,
c'est une grande chance. Enfin, j'ai l'impression, quoi.
Bah c'est ça. Parce que
vide quand même.
Quand j'ai un vide, vraiment un vide, ça dure pas longtemps. Parce que ça m'est jamais arrivé longtemps. Non, je pense pas. Même quand j'ai un vide, parce que c'est pareil. Quand tu fais une toile, des moments tu passes plus de temps à l'analyser qu'à la peindre. Quand tu fais une sculpture, c'est pareil. Et quand tu écris, ça va très vite. Très très vite. Quand tu écris, ça va très vite parce que si tu commences à penser, à calculer tes vers et tout ça, tes pieds et tout ça, t'arrives à un moment, bah tu fais une merde. Parce que tu vas analyser tes pieds, tu vas analyser 8 pieds, 6 pieds, c'est là, ça va pas. Ou alors que quand t'écris et tu le sens vachement fort, ça rentre tout seul et non, tes pieds sont là.
Mais Patrick, t'as eu un moment entre où tu travaillais, où t'avais une vie professionnelle assez monotone, c'est-à-dire
tout à fait.
Et t'as eu un stand-by entre de reprendre ton air et de
oui.
que tu deviens à fur et à mesure en ce moment.
Bah c'est différent. Quand je travaillais 8 heures par jour et puis je travaillais 8 heures dans mon atelier, donc j'avais plus à dormir. Ça faut comprendre une chose, c'est qu'à un moment ça casse.
Mais à ce moment-là, tu peignais, tu travaillais. T'avais ton air et ton.
Ah bah je faisais les deux.
Mais
ça peut pas durer des années.
Dès que t'as arrêté de travailler, t'as eu quand même un stand-by. T'as rien fait pendant un moment.
Non, j'ai pas. Je suis sorti de l'hôpital, j'ai pas.
T'as moins été créatif quand même.
Excuse-moi. J'ai quand même été beaucoup plus créatif parce que pour la simple bonne raison, c'est que en 2 ans, j'ai sorti quand même 40 toiles, dont des 120 F. 120 F, ça veut dire 3 mètres carrés.
120 F.
Donc, oui, 120 F.
Donc, pour tous ceux qui sont pas techniques,
pas 120 francs, hein.
le tout, c'est d'en revenir au fait de savoir si, effectivement, libéré du travail aliénant, on est plus créatif. Enfin, j'aurais tendance à penser que oui, maintenant.
Non, mais je pense que moi qui vais te voir assez souvent, quand même.
Bien sûr. Ce serait pour mon ami.
Je trouve que t'étais moins. C'est pas être performant parce qu'on n'a pas d'objectif au niveau de l'air. Mais il y avait moins de créativité quand tu travaillais et t'as eu un petit laps de temps où t'étais en stand. J'ai eu l'impression que t'étais en stand-by. On regardait des bouquins de cul dans le jardin, tu te rappelles?
Je pense pas.
Nous voilà avec, dans la poésie urbaine.
Je pense pas.
Bon, on va reprendre peut-être cette grande discussion.
Ça a été plus calme que là en ce moment. T'es en train de. Je pense que tu remets les deux pieds dedans ou à un moment t'en avais qu'un.
Non, les pieds dedans, c'est toi qui penses ça parce que tu penses comme tu vis. Bon, je pense que t'as raison, c'est une bonne chose. C'est Gainsbourg a dit la même chose aussi.
Interactivité entre les artistes et leur public. Je m'excuse de vous couper parce que je pense qu'on va reprendre ça après, peut-être différemment. Vous allez réfléchir 5 secondes. Je vous signale que ce soir on a une programmation très éclectique et puisqu'on a beaucoup parlé des femmes à travers le travail de Patrick, à travers beaucoup de choses qu'on a dit sur l'art, la programmation de ce soir qui a été faite par notre ami Arnaud fait place à beaucoup de femmes et là tout de suite on écoute Cohan avec Dihoun.
Je pense que
avez bien sûr reconnu Kohan, Dioun, morceau très atmosphérique par excellence. Ce qui va m'amener à la prochaine question. On n'a pas encore parlé de ton rapport avec les autres artistes. Parce que j'imagine que que par la force des choses ou par choix ou t'as été confronté à plusieurs artistes. Alors comment ça se passe un petit peu? Comment tu...
Bah, disons qu'au niveau du monde de l'art, tu rencontres plein d'artistes. Alors t'as des artistes qui sont bien entendu confirmés. T'as des artistes qui sont des artistes sans lettre. Bon, je parlerai des Pains du Dimanche, mais bon. C'est tout honorable plutôt, parce qu'ils ont le mérite au moins de s'exposer.
Si je puis me permettre, tu parles depuis tout à l'heure des peintres du dimanche. Tu fais la distinction que tu fais entre les peintres du dimanche et les artistes à part entière, c'est quoi?
Bah, je vais l'expliquer simplement. C'est que bon, entre faire une toile par mois et en faire 30 ou 20, il y a une différence.
Donc c'est une question quantitative pour toi?
Non, c'est pas quantitative. C'est pas une quantité, c'est ils ont moins le temps de travailler. C'est-à-dire que bon, tu vas avoir des...
Ils ont peut-être pas le choix aussi en même temps.
Non, tu vas avoir des gens qui vont te prendre une carte postale et ils vont te la reproduire. Donc ils vont te faire un petit bateau, ils vont te faire une petite maison, ils vont te faire une petite vache, ils vont te faire n'importe quoi, enfin, pour n'importe quoi, ils vont te faire un paysage. Ils ont le mérite de le faire d'ailleurs. Je trouve que c'est tout à fait logique. Et le peintre qui va créer, qui va pas reproduire une carte postale ou une photo ou une toile qui est déjà connue. C'est ça que je veux dire. Mmh. Bon, parce que t'as des peintres du dimanche qui sont très bons aussi. Hein. Je dis pas le contraire.
Et sur 3,50 francs, moi qui n'y connais pas grand-chose, une fois de plus, je fais le candide de l'histoire. Est-ce que le douanier Rousseau s'était pas considéré à un moment donné comme une espèce de peintre du dimanche?
Je pense pas.
Non.
Je pense pas, parce que franchement, moi je l'ai vu. Et en plus, bon, il y avait quand même derrière, il y avait quand même d'autres toiles qui ont été créées. C'est parce que bon, l'avantage du peintre, c'est de toujours créer, ne pas faire la même chose.
Mmh. Ouais, mais là, il y a quelque chose qui me chagrine dans ce que tu dis. Tu parles du peintre du dimanche, tu dis le type finalement, l'artiste ou la personne, je sais pas comment tu la jauges.
Moi, je pense
qui va reproduire quelque chose. Alors le mec qui peint, par exemple, je vais faire la mauvaise pub, mais qui peint une vache en violet, tu vois, genre pub chocolat, machin. Il va apporter dans l'esprit, il va apporter quelque chose d'autre. Il va pas prendre une vache comme ça de but en blanc qu'il va peindre, il va la modifier, il va la personnifier, il va adapter quelque chose. Donc là, il y a un processus créatif derrière
non,
tout ça.
Non, bah là, à ce moment-là, tu parles pas du peintre du dimanche, là.
On est d'accord. D'accord, ok.
D'accord.
D'accord, ok.
Hein? Ah ouais. Moi, je parle du peintre du dimanche et bon, bah, c'est une passion, c'est vrai que l'art, c'est une passion. Mais entre une passion et puis une création, il y a une différence. Il y a une clé et une autre porte à franchir. Ça se gagne pas comme ça. Hein. C'est tu dirais Modigliani à ce moment-là, pourquoi tu n'as pas ses femmes avec ses longs coups et tout cinéma. Je me demande pourquoi tu serais fait chier à faire ça. Hein, il avait qu'à les peindre normalement.
Ou la girafe au cou à tirer.
Voilà, tout à fait. Ouais. Ou alors Dali, comme on en parlait de Dali tout à l'heure, qui va nous faire du rêve, et pourquoi tu serais fait chier à nous faire du rêve alors qu'il aurait pu très bien prendre une carte postale.
Ouais. Mmh. C'est vrai.
Bon, c'est vrai qu'il y a des toiles qu'on a regardées qu'on a pu voir qui pouvait ressembler à des cartes postales, mais c'était pas des cartes postales, c'était de la peinture.
Ouais.
C'est là la différence.
D'accord, d'accord. Alors on parle beaucoup de toi, on parle beaucoup de tes œuvres. Bah, où est-ce qu'on peut te voir déjà? Où est-ce que tu exposes?
Bah, moi j'expose, pour l'instant j'exposais plus, parce que j'ai eu un accident et puis j'étais sous un régime où il fallait que je reste tranquille, donc j'ai travaillé. J'ai mon atelier qui est à Écrinville. Et bah j'ai une maison que j'ai construite en forme de galerie, parce que je vis avec mes œuvres. Et puis on peut me voir là.
Ça veut dire qu'on peut venir chez toi?
Oui, tout à fait.
D'accord, donc avis aux amateurs, on peut...
Tout à fait.
Bah, tu peux nous rappeler ton adresse à ce moment-là?
Bah écoute, je vais te la donner.
Ah, tu la connais?
Alors,
pas.
Il regarde dans ses poches, car nous ne sommes pas à la télévision.
Ah, c'est formidable. Ça.
Patrick Tabar est en train de chercher son adresse. La voilà.
Alors, si vous voulez voir les œuvres de Patrick Tabar, vous présentez au 56 Lamar Rocher, c'est ça? J'écorche rien du tout. Rocher, pardon.
Écrinville.
Donc, à Écrinville, Seine-Maritime, bien évidemment. Je parle pour Oui, Juliette.
Non, bah dis donc, ça me permet une petite transition parce que un de nos auditeurs est plus ou moins coéquipier de Radio Apple Pie avait envie de parler de Morales, qui est un sculpteur qu'il aime beaucoup et qui justement expose chez lui. Est-ce que tu connais Morales? Question.
Non.
Comme ça. Bah, en fait, bon, j'en parle vite fait parce que ça peut pas faire de mal.
Non, tout à fait.
C'est quelqu'un qui sculpte sur de la ferraille, qui sculpte sur de la tôle, qui sculpte ça des trucs. Géant et le en fait il a un mini musée, c'est assez intéressant parce que c'est à Port-de-Boux du côté de Marseille. Alors vraiment j'invite tout le monde à y aller si vous avez l'occasion. Donc il a un grand jardin à côté de sa petite maison. Il est très prolifique, donc il y a beaucoup de sculptures, toutes plus rouillées les unes que les autres, puisque ça reste aux intempéries. Bon, il fait beau là-bas, mais enfin, il pleut de temps en temps aussi, ça s'oxyde, quoi. Et c'est le genre d'artiste qu'on peut donc visiter chez lui, comme toi, en tout cas, pour le moment, en ce moment. Et c'est genre, tu payes 5 francs pour rentrer dans son jardin et regarder toutes ses sculptures, qui sont énormes et magnifiques, vraiment. Hein. Et puis, si tu veux prendre des photos, tu payes 10 francs. Et si tu veux filmer, tu payes 15 francs. Mais c'est quelque chose, ça a l'air de rien comme ça. Mais c'est un artiste vraiment grandiose et qui a inspiré plusieurs groupes du Havre, à tel point que, d'une manière détournée ou pas, les Foreheads comme les Backsliders s'en sont inspirés. Ils représentent, par exemple, la maternité, l'humanité fuyant devant la guerre. Mais toutes sortes de choses, en fait. Ça peut être aussi bien de l'amour... de la poésie, de l'enfantement, que... Enfin bref, bon, c'était un petit parallèle que je faisais sur Morales, puisque tu parlais du fait qu'on pouvait aller voir ton travail à domicile, et c'est son cas, quoi, voilà. C'est tout.
Alors, est-ce que tu as sculpté ta gazinière? Est-ce que tu as sculpté ton frigo? Est-ce que tu as sculpté tout ça?
J'ai même fait mieux que ça, j'ai sculpté ma moto. et mes casques.
D'accord. Alors, on parlait de... de lieu d'exposition, donc tu viens de nous dire qu'on peut se présenter chez toi. On donnera pas ton numéro de téléphone parce que tu vas être assailli de coups de téléphone.
Non, c'est pas assez assailli. C'est un grand mot ce que tu viens de dire.
Oh, assailli en deux mots ou en un mot? Attention, Patrick.
Non, c'est une plaisanterie, c'est une boutade.
Oui, pardon. Oui, non, Bertrand, je t'en prie.
Non, mais je disais que vu le personnage, finalement, parler de Saïd, ça pouvait que lui correspondre. C'est un poète, donc il manie les mots. Nous sommes
absolument
d'accord.
Ok. Plus, avec le surréalisme.
Une transition impeccable, finalement. Ouais. Et donc, on parlait tout à l'heure du fait de ne pas exposer au Havre. Il y a quelque chose qui te bloque ici? Il y a quelque chose qui te retient?
Le problème, c'est. Le problème, c'est l'argent, toujours. Toujours l'argent.
Le nerf de la guerre.
C'est-à-dire que, bon... Toute mairie, toute... possède un financement pour, justement, aider l'art à se faire découvrir. À but lucratif, je dis bien, à but lucratif. Pour de l'économie, à but lucratif. Et puis bah, le problème qui est l'heure actuelle, j'ai un énorme problème de trouver des salles. Bon, c'est vrai que c'est pas facile pour moi parce que développer 10 toiles de 3 mètres carrés ou développer 40 toiles, il me faut une grande salle. Bon, moi je vais pas déplacer 40 toiles pour un week-end.
Attends, pardon, parce que au niveau format, tes formats sont très grands, c'est ce que tu disais?
Très grand, bah 120 F, ça fait 3 mètres carrés.
Donc, tu, par exemple, t'as pas la possibilité d'exposer dans des salles qui pourraient être, sans être des galeries d'exposition, des lieux.
Bah le problème, faut le trouver le lieu déjà. Mmh. Et puis bon, ouais, quand tu t'amènes, puis tu présentes ton projet. On dit oui, ok, on va réfléchir, on va vous retéléphoner, et puis t'as pas de réponse. Mm-hmm. Bon, tu leur dis, bon bah écoutez, vous avez quand même des subventions pour justement, en but lucratif, pour les écoles et tout ça, de faire ci et ça. Bah t'as pas de réponse.
Ça veut dire qu'au Havre, comme dans pas mal d'autres villes, si tu n'as pas une notoriété acquise en termes de rentabilité, tu peux pas exposer ne serait-ce que, je sais pas, 10 toiles correctement.
Si tu peux le faire, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Ils organisent des salons, ils organisent, comme on parlait tout à l'heure avec les autres peintres, parce qu'on va en venir aussi. Mais bon, il y a, dans le milieu de l'art, c'est comme dans tous les milieux, t'as des gens qui prennent le monopole des choses et qui gouvernent les choses. Moi, j'ai vu une toile de 3 mètres carrés accrochée derrière une porte.
Ouais.
J'ai vu aussi dans un salon, je leur ai dit la prochaine fois, mettez-moi dans les chiottes, ce sera mieux. Comme ça, on le verra. Parce que il y a une certaine jalousie, une certaine prise en main des choses qui pour moi me frustre. Ça me frustre parce que tout artiste a le droit sa place.
Et bien sûr.
Et si un artiste dénigre un autre artiste, il a pas le nom. Il peut pas se permettre de le dire qu'il est un artiste.
Et tu parles de collectivité tout à l'heure, tu parles de mairie, tu parles d'école, il y a quand même plusieurs galeries privées, je pense.
Alors là, les galeries, c'est autre chose.
D'accord.
Si tu veux parler des galeries, ouais, c'est compliqué. Parce que les galeries, ça te coûte énormément cher.
Ça veut dire que tu dois payer, tu dois t'acquitter d'un droit d'entrée pour pouvoir exposer.
Non, même pas. Parce que déjà, il faut qu'ils t'apprécient. Il faut déjà qu'ils sachent qu'ils vont te vendre.
Donc ils vont se sucrer.
Évidemment.
Okay, on est
quand tu dis qu'ils t'apprécient, ça veut pas dire qu'ils croient en ton art, ça veut dire qu'ils croient en ta rentabilité financière.
Bien sûr. C'est-à-dire que bon, ils ont un œil critique d'art, ils ont un œil. C'est pas des mauvais, au contraire, je dis pas que c'est des mauvais, c'est des bons critiques d'art. Mais ils vont te demander déjà de voir tes toiles, de voir ton travail. Après, ils vont te demander de payer. Ils vont te prendre un pourcentage sur tes ventes. Ce qui veut dire que quand tu vas vendre une toile, parce que quand tu exposes dans ces cas-là, c'est que tu vends une toile. Donc, ils vont te demander 30% sur ta toile. Plus. Alors, ça veut dire que c'est la mort du petit prince.
Ok, je comprends. Ouais.
La mort du petit prince. Alors que, normalement, leur but, bon, il faut qu'ils mangent, je suis entièrement d'accord, il faut qu'ils vivent de leur galerie, parce que c'est pas gratuit une galerie. Faut que tu payes tes impôts, faut que tu payes ci, faut que tu payes ça, mais ils vont trop loin.
Alors, ils vont trop loin pourquoi? Dans l'argent qu'ils vont te réclamer, qu'ils vont prendre sur
toi? Non, ils vont trop loin, pas pour moi, pas pour ma peinture, parce que j'en ai parlé. Si t'aimes ta peinture, tu l'aimes ta peinture. Une fois que tu l'as vendue, je préfère qu'elle soit vendue n'importe quel prix, je m'en fous. Ou que je la donne à la rigueur, mais qu'elle finisse pas dans une cave. Déjà, c'est pour commencer, c'est déjà une bonne chose. Je veux pas qu'elle finisse dans une cave et puis que je la récupère pourri. Et puis que, disons, après, on dit, ce mec-là, il était bon ou il était pas bon. Il est bon aujourd'hui, il est bon tout le temps. Sinon, c'est pas la peine. Donc.
Mais alors, il y a un truc, excuse-moi, Patrick, c'est comment on fait, très concrètement, je me suis déjà posé la question, quand c'est des gens que je connais un peu, c'est sûr que quand tu entends parler de comment sont vendus les tournesols ou quoi que ce soit, bon, t'hallucines un petit peu, mais comment on arrive à donner un prix à une toile? Toi, par exemple, comment tu sais que quelqu'un juge, bon, voilà, alors c'est comme ça, alors une galerie, s'il arrive, il te dit, ça, Coco, je peux te le vendre tant, moi, je me fais mes 30% dessus. Comment tu vas savoir si une toile que toi, tu aimes, j'en sais rien, tu vois, ça va être ton temps de travail, tout l'amour que tu as mis, les années que tu as passé à y penser, et puis, matériel.
On va en parler parce que je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que t'as une cote. Ta cote, tu te la fais. Ça, c'est obligatoire.
Et les galeries aussi.
Et les galeries aussi te la font. Mais pour un peintre, par exemple, tu peux mettre n'importe quel prix sur une toile.
Bah oui, c'est ça, qui m'intrigue toujours, vraiment, de l'extérieur.
Tu peux en vendre une, comme ça, à ce prix-là. Mais il faut que tu restes fidèle à ton point. Parce que la cote d'une toile, ça marche avec un point. Chaque point, si tu vends à ce point-là, tu respectes ton point. Et tu respectes les gens à qui tu as vendu ta toile.
Waouh.
C'est normal.
Oui, d'accord, mais ça veut dire que d'une certaine manière, tu peux plus jamais avoir accès à la gratuité ou à quoi que ce soit dès que t'es monté dans une cote.
Non, tu peux la donner. Tu as le droit de la donner.
Oui, t'as encore le droit.
Oui, non, t'as le droit de la donner, obligatoirement. Mais si tu veux revendre ta toile, t'es obligé de la mettre au même prix. Sinon, tu trahis les gens qui t'ont acheté.
Et tout est quantifié comme ça.
Bah oui.
En sculpture, ouais. Et par rapport à la poésie, alors, d'une manière...
La poésie, ça marche pas du tout pareil, parce que la poésie, c'est plus éphémère.
Il n'y a pas encore de marché là-dessus? C'est pas assez à la mode?
Si, il y a un marché, mais bon, le problème, c'est que tu peux publier un recueil, ça peut marcher, et puis si c'est pas vendu, c'est broyé.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Adieu.
J'ai oublié cet aspect du pilon. Ouais. Ouais. Écoute, on va en venir sur ces questions concrètes parce que on est parti dans la beauté, mais c'est bien aussi de parler du concret et comment ça marche derrière.
Je crois qu'il faut en parler aussi du concret.
Mais on va écouter Hydromatics et la musique. On peut en parler aussi. Il y a derrière malheureusement de la rentabilité, des majors compagnies, mais enfin bon, il y a de l'art aussi. On va écouter Hydromatics tout de suite et on revient là-dessus. Dans la salle, autour de la table, autour des micros, on ne sait plus où on en est. Tiens. On ne sait même pas si ça enregistre encore alors qu'il est. Vous voyez pas le délire, les gars. Bon, alors nous sommes toujours et avec joie et avec plaisir. Il faut croire que c'est un invité qui a plein de choses à dire. Je connais depuis presque 2 heures bientôt avec Patrick Tabar. C'est pas merveilleux, ça?
Écoute, je crois que c'est la première fois d'ailleurs en 3 émissions qu'on tient autant.
Il a mangé avant de venir.
Le sujet est passionnant, l'invité est passionnant et franchement, je suis vraiment très content. On a parlé peinture, on a parlé sculpture, on a survolé mais vraiment de très très loin la poésie. À la limite, ça fera à mon avis l'objet d'une, ça pourrait faire l'objet d'une émission, d'une autre émission, parce que c'est assez long aussi. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on en parle aussi avec toi. Là, je vais passer vraiment du coq à l'âne. Parlons architecture, parce que j'imagine que ça doit te toucher. Est-ce qu'il y a une ville, par exemple? On connaît la particularité du Havre au niveau architecture. Est-ce qu'il y a une ville où toi, en tant qu'artiste, qui t'inspire plus que les autres? Est-ce qu'il y a un endroit où tu te sens un petit peu plus, je sais pas, sensible? Est-ce qu'il y a il y a un endroit qui te...
Non, mais justement, tu parles d'architecture, ça m'intéresse. Parce que souvent, et même dommage d'ailleurs, parce que quand j'ai fait le colloque de la sculpture avec César à Rouen, il y a un maire qui en a parlé d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on prend souvent la sculpture pour cacher un défaut de l'architecture.
Ou pour égayer une architecture un petit peu vieillissante,
tout à fait.
Un peu morne.
Bon, au Havre, moi, je trouve que l'architecture, c'est à comprendre ou pas à comprendre. C'est comme l'art. T'aimes ou tu n'aimes pas.
Ça te plaît ou pas ici? Tu aimes ce qui se passe?
Moi, j'aime ma ville parce que je suis né ici et puis je l'ai vu évoluer. J'ai vu les choses changer. Là, en ce moment, je la trouve encore plus belle. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont remettre en état, une architecture qui était ancienne. Par exemple, la maison de l'écrivain.
Ouais.
Si je trouve que c'est magnifique ce qu'ils font, parce que je trouve que c'est une belle chose du Havre. Et en plus, ça donne la vie sur la mer, ça donne la vie sur la vie. Et puis bon, ça évolue, quoi. Moi, je crois que quand les choses ne bougent pas, il n'y a pas d'architecture. L'art, c'est fait pour faire de l'architecture.
Donc, donc ça vit en même temps que le...
Tout.
D'accord.
Ça bouge. Il ne faut pas rester bloqué sur une chose. Il faut regarder les choses pour pouvoir les comprendre. Si tu ne sais pas les regarder, tu ne les comprendras jamais.
Alors, qu'est-ce que tu penses du projet de la mairie de transformer... Tu faisais allusion, j'imagine, à la maison d'Armance à la Croix.
Tout à fait.
Alors, est-ce que tu es au courant aussi, en tant qu'artiste, du projet de la mairie de vouloir faire...
Non, je ne suis pas au courant.
Tu n'es pas au courant?
Non.
Alors, en fait, ils ont lancé plusieurs idées, et puis je crois que celle qui va être retenue, sauf erreur de ma part, contredisez-moi si je me plante vraiment.
T'inquiète.
Mais apparemment, un casino serait... Et là, je crois que tout serait brisé, si je puis me permettre. Faire un casino...
Là, disons, au niveau de la maison Salle à Croix, ils refont un hôtel-restaurant.
Hôtel-restaurant, d'accord.
Un hôtel-restaurant, ils reprennent, ils touchent rien au niveau de l'architecture. Ils rénovent dans les mêmes états où c'était.
C'est magnifique,
d'accord.
D'ailleurs.
Donc elle va être transformée pour... ok.
Et ça doit être transformé dans le même état. Et disons, par rapport à...
Non, je crois qu'il y a des choses qu'on été faites... À part toute politique, hein, je ne suis pas du tout dans la politique. Je suis pas du tout. Je fais pas de politique, moi. C'est une chose que j'ai en horreur, c'est la politique. Mais je dis que le Havre, quand moi j'ai 44 ans, je l'ai connu tout petit. Il a été détruit tant qu'après-guerre. Il y a eu une évolution énorme avec la municipalité qui était avant.
Ils ont quand même oublié le monument aux morts.
C'est un hommage à notre ami Jean-Pierre qui n'est pas là ce soir.
Il y a eu des choses énormes. Il y a eu des choses bien, il y a eu des choses mal. À mon point de vue.
Alors, le quartier que tu préfères ici, au niveau ambiance.
Au niveau de la maison, ça la trouve, j'aurais pu faire une bibliothèque.
Ouais, ça coulait sous le sens, évidemment.
Non, moi, je veux dire que... Dans tous les quartiers, il y a eu des choses qui ont été faites importantes. Il y a eu des fleurs, il y a eu ça a été repaysagé complètement. C'est vrai qu'il y a un travail énorme parce qu'on a une belle vie fleurie quand même. Je peux te dire que là, tu rentres au Havre en ce moment, tu t'en prends plein les yeux. C'est vrai que bon, en tant que peintre, c'est normal. Je vois des couleurs partout, je trouve que c'est magnifique. Il y a un travail énorme. Tu prends le bois de Monjon, moi je l'ai connu quand j'étais gamin. J'allais au centre aéré, c'était un bois. Là, tu vas au Bois de Monjon, c'est quand même un parc, c'est quand même beau. Tu vas à Rouel, c'est beau. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses de faites. Beaucoup de choses de faites, mais bien et belles. Maintenant, c'est vrai que la critique est facile.
Mais l'art est difficile. Non, c'est vachement fleuri aussi.
C'est bien ce que tu viens de dire. C'est bien ce que tu viens de dire. La critique est facile, mais l'art est difficile.
Tout à fait.
Je voudrais dire un truc. Je m'excuse. Je vais m'écarcer la voix pour le dire. Parler de Salle à Croix sans parler politique, ça me semble quand même un petit peu difficile, quoi.
Ça n'a rien à voir.
Bon, quand même.
Je vois pas.
Non, bon. Bref.
Je vois pas parce que la ville a racheté l'endroit et a laissé une concession à un groupe financier qui sont là pour faire de l'argent.
Oui.
C'est là qui me dérange, ça me dérange un peu. Au lieu que ça soit culturel, ça devient un endroit où.
Oui, c'est un peu gênant. Non, puis en règle générale, enfin, c'est ce que je trouve un petit peu contradictoire aussi, mais enfin bon, c'est que je comprends que quiconque n'ait pas envie de se situer droite, gauche, extrême gauche, ceci, cela, bon, on c'est
a,
pas mon cas.
On n'a pas parlé ni l'un ni l'autre.
Je sais où que je suis. Non, mais parce que Patrick Tabar, notre invité, disait « je ne suis pas politique ». Je pense que la contradiction, elle est dans le fait que tout à l'heure, tu disais « l'art ne fait pas non plus que donner à voir des belles choses, il dénonce aussi parfois ». Et ça se retrouve un petit peu quand même dans un peu tout. Je veux dire, les surréalistes, ils ont dénoncé des choses, beaucoup d'écoles en peinture, en sculpture, en écriture, ou beaucoup d'artistes individuellement ont eu des visions du monde à donner, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'appelle ça politique. C'est pas politique au sens un parti ou un autre, on vote pour ci ou pour ça, mais c'est politique au sens où une certaine vision du monde est exprimée, quoi. Enfin, je sais pas, oui. Est-ce que ça te passe complètement à côté, vraiment, ou...
Disons que j'ai eu une époque aussi où j'ai vécu ça, quoi. Où je me suis investi. Après, bon, bah, j'ai décidé de plus m'investir. C'est-à-dire que s'investir dans les choses qui sont vraies et fausses, c'est gênant. Parce que ils veulent tous le même gâteau. Ils veulent tous la même chose.
Non, mais les politiciens, oui, mais je veux dire, personnellement, je crois pas du tout.
Et t'as la même chose.
L'art en dessus.
Et t'as la même chose dans l'art. Loin tu as exactement tout, la même chose dans l'art. Parce que tu as des gens qui veulent tous la même chose, le gâteau. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, ce que je veux, je pense que si on comprend bien le sens de ma parole, enfin, de mes paroles, c'est que, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie, c'est pas, tu t'investis pour une chose. Tu t'investis pour le donner du plaisir.
Je suis pâtissier, j'en fais des
mais
gâteaux.
Tu dois pas demander une part de gâteau, puisque ton gâteau, tu l'as.
Mm-hmm. Non, mais c'est pas comme ça que je vois la politique. Hein. Je vois pas la politique comme demander une part du gâteau ou la piquer aux autres. Non, je vois la politique comme un investissement d'une personne dans la vie de la société, de la société du monde en général. Quoi,
oui, si mais bah, c'est...
Comme, pour moi, chaque acte est politique.
C'est pareil partout. Hein,
d'autres gens ont théorisé mieux que moi là-dessus sur le fait que prendre un pinceau,
c'est politique. Tu vas partout, il y a la misère partout, il y a du bonheur partout, il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui sont pauvres, c'est partout. C'est pas qu'en France, c'est pas qu'OF, c'est partout. Par contre, quand tu peux donner quelque chose, c'est quand même important. C'est quand même quelque chose qui te permet d'avoir une satisfaction.
Bien sûr.
Apporter quelque chose à quelqu'un, c'est déjà donner une partie de sa vie. Et je trouve que si tout le monde fait ça, on peut être beaucoup plus heureux. Parce que si on parle que d'argent, évidemment, on va rentrer dans le monde politique. On va rentrer dans une société.
Seule la folie révolutionnaire.
Bravo.
On va rentrer dans une chose où non, on va
si tu donnes de l'argent à Rouge, si tu donnes de l'argent à Rouge,
de ce qu'on a parlé ce soir.
Tu sais que ça va bien être géré.
J'en ai marre. Je parle tout de suite.
Non mais l'art et l'argent font mauvais ménage de toute façon. C'est pas facile d'associer les deux. C'est vraiment pas facile. À ce propos, est-ce qu'on en vit bien?
Est-ce qu'on de l'art?
Ouais.
Non. Non, on vit très très mal. Très très mal parce que je veux dire une chose, tu t'investis énormément dans ton travail et tu t'investis énormément dans l'achat de des matériaux. Une toile, ça coûte cher. Un tube de peinture, ça coûte cher. Attends, quand tu commences à travailler une trompe de carré, c'est pas les petits tubes que tu prends, c'est des gros tubes. Quand tu commences à encadrer une trompe de carré, c'est plus une petite corde, c'est un gros col. Quand je vends une toile, par exemple,
t'es obligé d'avoir une grande maison.
Je réinvestis tout. Donc je gagne rien. Mais le plaisir, c'est
tu que réinjectes systématiquement.
Je réinjecte obligatoirement. Sinon tu peux pas. Tu peux pas. Ou alors tu tapes dans le budget familial. Avant dans le budget familial, ça veut dire que tu manges plus. Moi j'ai dissocié mon budget familial avec mon budget d'art. C'est-à-dire que mon art, elle est autonome. Elle vit par elle-même.
D'accord. Deux budgets.
Deux budgets.
Un budget frigo, bonne femme. Un peu de peinture, sculpture.
Toi, tu.
À la rigueur, non.
Soyons terre à terre, on parle d'argent.
Non, mais oui, attends, tout à fait. Attends. Si on parle d'argent, t'as raison.
Sculpture, bonne femme, frigo, bonhomme, tu crois rien.
Je
ne
veux pas priver ma fille de manger.
Des heures qu'on s'achète.
Ou ma femme de se priver de son salaire. Parce qu'elle travaille. Et moi, bon, bah, je travaille aussi. Enfin, je travaille pas, mais je travaillais avant. J'ai jamais touché mon budget entre ma famille et mon art. Mon budget d'art, il est
autonome. C'est-à-dire que je réinvestis à chaque fois. Je gagne pas d'argent, je m'en fous. Mais je m'en fous, mais je suis vachement content.
Il peut mettre la pièce de 10 francs dans le caddie, mais il la récupère après pour pouvoir acheter de la peinture.
Tout à fait, c'est un peu ça. Tu pousses le caddie, là.
Ok, avant de tomber dans la gestion et de sombrer dans la gestion la plus sordide, on va écouter Steve Coleman, ça va nous refroidir les oreilles. Ou les réchauffer.
Coleman.
Science time, science time, science time, bring on the science, and it's set in the room, and I'm from the bed. My eyes open every morning to the same situation. It's a sad situation. Who controls our nation? The 10% thrive on the lies of the devils who claim they got the answer to our problems in the church. Buried like bodies in books who do the knowledge of hell. Decayed markets that's controlled on our market. Negative food is detrimental, but at the same time your food's fried and swine to kill your mental when it's simple. I mean it is the work of the devil. Keep them bored in school so they can break the rules. Forced into ham and cheese sandwiches. Two more weeks of swine. Now they wanna tell us what our average is. Edgar Allan Poe ain't do a damn thing for me. A bunch of black letters in a white man's story. But oh, you're not white, are you? You're transparent like a bottle of pale dry ginger ale. Now they wanna place me in a cell, cause I'm knowledge build and I was born to kill. My student Roma said, who is the colored man? He's a Caucasian Amorite from Europe, man. He has a plan to try to rule me, the black man. Keep me in the ghetto, but I don't wanna leave anyway. Cause that's what the Masons do. They know the black man's gone, but they ain't trying to tell you. They make commercials on the television. Amorite's crying cause John's rich bitch couldn't take it and took her own life. Took an overdose of gel, got sleeping pills. Found dead in her beach house in Maui. She caught too much dust in the nose. Took one last snort, then her body just froze. Guess she had the fever for the white stuff. I got the right stuff, cause I'm a suave rock. Liberal rock with the power to build, kills destruction. Now add on, cause y'all leads the foundation. I build a pyramid mentally. Physically, I'm G-O-D and get a devil to fuck with me. Compositions I write should be a lesson in the how to manifest like a garden drop. Wisdom like the ashes on the end of my blunt. While I'm performing, making noise like a storm. These build powers are born. It's verbal demolition, here's the memo. Listen, I glisten like a star, moving solar. Born a mission, it's about to keep on battle. Come on, saddle up, who left confrontation? With battles of death, I'm not a star, I take the L, I don't allow her. I'm a robot fighter, born a mic like it. Oh, ain't no tomorrow, and seize the plenty of many. But ain't one a penny, nickname my pen, Jenny. Have a singing, you send me. Last joys of war, I get my ass in jawed ash. And last, yes, alas, if the mass, see the Lord has. But because I'm a rhyme, fine, time to tell a story. Give me crap, my rap, slap with me in the auditory. It's mandatory, the man's a fury. Hey, bill to the full bust, to cussing on a lady. They got the test of dawn. I got it going on, jerk, expert. I broke you through the break of dawn. From the Vatican hit, I'm watch staggering. I'm out on the back, black. I'm Bobby Bass with a pen and pen. Then again, a pen to offer up the top 10. And see you back in the bread. I'm stepping on a news bulletin. The crappy ass out, don't be half assed. Give them the crash of mass, and that's smooth they cast it.
Astrologic, musical vision, nuclear notes said to promote blurred vision. Vocalism fueled by DNA molecules. My beat is running over, blowing the fuse, started up. My catalyst be the impact of a drum. Transpose verbs into burst of helium. The beneficent joint charge particles giving birth to sub-zero atomic particle dawn, fusing work with science curriculum, penetrating your endo. Plasmic reticulum of the brain cells, like an aurora borealis. I light up the sky, right the force of UI on Ellis Island, violin meditation. I rock ya like a yogi, tapping into my chakra energy, putting to rest any non-entity. I'm limitless, a true nemesis. I be the alchemy, turning the periodic table. Discover my channel without the use of a cable. Able, willing, like Jefferson.
Donc c'était Steve Coleman, un morceau qui s'appelle je ne sais pourquoi Science, mais un morceau excellent quoi qu'il en soit.
Comme tu dis, Juliette, faire une transition là-dessus, c'est très difficile. Alors, l'émission touchant à sa fin, je voudrais rappeler à nos connectés que si vous voulez voir les œuvres de Patrick, je redonne l'adresse et j'en profite. Ça se trouve à Écrinville.
Tout à fait, oui.
Seine-Maritime, 56, Lamar Récher. J'ai pas écorché le nom, Patrick, c'est bon?
Tout à fait.
Ok. Je vous rappelle aussi à tous les connectés que vous pouvez nous retrouver sur le site radio.ap.free.fr, que les deux émissions précédentes sont disponibles également, qu'on jouit d'un succès absolument incroyable. Je crois qu'on en est à 230 000 connectés. Continuons la lutte, continuons le combat.
Absolument.
Juliette, je te laisse terminer.
D'accord. Bah, en fait, je voulais, comme toi, comme toute l'équipe de Radio Apple Pie, remercier Patrick Tabar, qui était là ce soir avec nous, qui nous a merveilleusement parlé de poésie, de sculpture, de peinture et de l'art en général, de toute façon, d'une certaine façon de vivre. Et sans être amère, je voudrais passer un petit message qui concerne directement les gens qui aiment la musique ou qui prétendent aimer la musique dans cette ville, et notamment les gens qui prétendent aimer le rock'n'roll. Alors voilà, je m'explique tout net. Nous recevions pas plus tard qu'il y a 15 jours sur Radio Apple Pie les Backsliders. Nous avons écouté également les Cowboys from Outer Space, excellent groupe de Marseille, on ne le dira jamais assez. Et ces deux groupes passaient à l'Agora. On parlait tout à l'heure de comment vivent les artistes, les musiciens comme les autres. Comment vivent aussi les salles, enfin les gens qui essaient de se décarcasser un petit peu, quoi. Donc on avait une affiche rock'n'roll, prétendument supportée par pas mal de gens dans la ville du Havre, pour un tarif de 50 francs prix unique, dans une salle qui est parfois critiquée sur la base de rumeurs. Je me permets de contrecarrer à l'avance les rumeurs, j'attends vos emails si vous voulez. Une salle avec un bar où le personnel est désormais tout à fait charmant, où les prix sont abordables, où les lieux sont très bien décorés, avec une sonorisation excellente, surtout quand c'est Loïc qui est aux manettes, avec des lights magnifiques, avec notre ami Walter qui n'aime pas être cité, mais enfin c'est comme ça. Et finalement, bah, je dis merci à tous ceux qui étaient un public délicieux et aux groupes qui ont fait une prestation formidable. Et je dis merde à tous ceux qui sont pas venus et qui se plaindront quand l'Agora fermera, quand les Backsliders splitteront, et les Cowboys aussi. Parce que c'est quand même un petit peu dramatique de voir que dans la ville, on rencontre des centaines de gens qui prétendent aimer la musique et le rock'n'roll et qui ne se déplacent pas d'un iota en plein centre-ville pour venir voir ça, quoi. C'est tout. Et continuez à venir, les autres, il y a que vous qui comptez. On vous aime, on écoute les Cowboys pour faire regretter à ceux qui sont pas venus de pas les avoir écoutés.
Ce soir un féministe, alors à ce titre j'aimerais qu'on termine par par Juliette. Je te passe la parole, Juliette, parce que je sais que t'as encore plein de choses à dire, même si ça prend 5 secondes parce qu'il reste pas longtemps sur le disque. Et ben tant pis pour toi, tu vas débrouiller, tu vas retourner 5 secondes, tu vas parler comme ça.
Non, en fait, évidemment, je voulais encore remercier Patrick pour la manière tellement poétique dont il nous a parlé de l'art ce soir. Et je voulais faire un enchaînement un peu tardif, mais enfin, tant pis, puisqu'on a parlé de Dali, on a un petit peu survolé le mouvement dadaïste, etc. Je voulais juste terminer en vous conseillant un bouquin qui s'appelle « L'insurrection situationniste ». Je pense qu'on y reviendra dans une prochaine émission. Et qui explique un petit peu comment il y a une évolution du mouvement surréaliste, du mouvement dadaïste au mouvement situationniste, une génération chassant l'autre dans la subversion et la provocation. Donc il y a un bouquin qui s'appelle « L'insurrection situationniste » de Laurent Chollet, qui vaut la modique somme, je regrette de vous le dire, là c'est quand même 195 francs. Bon, vous pouvez l'offrir en cadeau, peut-être à Noël, à quelqu'un qui a envie de se rebeller.
Ou volez-le éventuellement.
Vous pouvez le voler aussi, mais surtout pas à la Galerne, excellente librairie.
Ah oui, je suis d'accord, oui, oui, il ne faut pas. Allez, on en profite pour remercier aussi Marco, merci d'être venu. Alice, merci d'être venu.
Je pourrais dire un dernier mot.
Ah tiens, ah, bah, écoute, il te revient de droit.
Des choses que j'ai écrites. Je voudrais dire que l'art me déchire pour mieux vous servir. Je vous aime autant que lui. Merci.
Point final.
Merci Patrick.